Vous écoutez France Musique.
Merci beaucoup Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est des rencontres du parti d'Anjouet qui ne vous laissent pas indifférent. Le dimanche soir sert à cela, à faire tomber le masque de l'indifférence, à l'autre, à soi-même. Et plus on a de questions, eh bien finalement moins ça nous en pose. Mais ici, on ralentit le rythme et on refait le monde ensemble avec notre invité autour de ce qu'il ou elle est. On parle d'existence plus que de calendrier et le rendez-vous de ce soir pointe les lumières vers une chanteuse pour qui le mot « voix » ne signifie pas autre chose que « voix, regarde qui je suis », tant sa voix est unique et ne ressemble à aucune autre. Attention, compliments et rougeurs intempestives. Et bienvenue à Lucille Richardeau, bienvenue à vous. Si vous ne saviez pas quoi faire de votre dimanche soir, eh bien asseyez-vous, tranquillisez-vous, on s'occupe de tout et surtout de vous.
Triste les joues blêmes, tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine, et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino, tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins.
C'est une sorte de cantate profane qui ouvre votre partie d'Anjouet. Lucille Richardeau, bonsoir.
Bonsoir.
Comment
Edouard.
Allez-vous?
Ah ben ça va très bien, comme toujours.
Alors là, on
soir.
Rentre finalement dans votre intimité parce que c'est une musique que vous chantez sous la douche.
Exactement, le matin pour m'échauffer.
Ah oui, le matin.
Cantate ou l'après-midi sous la douche.
Oui. C'est quoi la nudité? La nudité, c'est quelque chose que les chanteurs connaissent bien ou pas? Quand on chante, on a l'impression d'être nu? Ou c'est un peu une métaphore excessive?
Oh, c'est un peu excessive. Bon non, c'est comme tout le monde, on joue un rôle. On endosse plutôt un costume qu'on se met à nu. Plutôt, je dirais.
Entre la douche et la scène, vous changez de voix?
Non, pas tellement. C'est l'acoustique qui change. Le carrelage, c'est flatteur. C'est même un grand risque.
Dalida, c'est qui pour vous?
Ah, Dalida, c'est, disons que pour moi, c'est une grande voix, bon, qui a été un petit peu maltraitée dans la période disco, encore que, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu être une grande mezzo, mais voilà, elle a choisi de faire ce qui lui plaisait, ce qui faisait bien gagner sa croûte à l'époque. Et puis, franchement, pour moi, c'est une grande artiste, une grande, grande voix, encore une fois. Et puis, c'est le souvenir de mes soirées en boîte ou ailleurs, chez les particuliers, avec mes amis d'une certaine communauté qui adorent Dalida. Pour eux, c'est une icône et je voulais leur rendre hommage aussi ce soir.
Mezzo, ça a du sens pour vous, cette catégorie ou pas?
Ben, en fait, on me demande souvent dans les programmes ou dans les disques, on t'appelle comment, mezzo ou alto? Je dis c'est en fonction du répertoire qu'on enregistre.
En fonction du cachet.
En fonction du cachet. Alors, au-dessus de 5000 euros, c'est mezzo. Non, c'est vraiment en fonction du style de musique. Moi, j'ai renoncé depuis longtemps à me définir comme contralto depuis que je me suis cassé les dents dessus le jour où je me suis présentée à l'atelier lyrique.
Comment dit, comme contralto.
Oui. Alors, tiens, une contralto. Ah ben, faites-nous voir.
Parce que très recherché.
Oui, voilà. Et puis tellement rare. Et puis souvent très usurpé. Et effectivement, j'ai découvert après que je n'étais pas contralte. J'ai les notes, mais je n'ai pas la noirceur d'un contralte. Donc, je me définis comme mezzo quand il faut chanter de la mélodie, du lead, de l'opéra contemporain ou classique. Et baroque aussi. Ou bas-dessus, dans la musique française baroque. Mais après, quand je vais faire des cantates de Bach, ça va être alto. Parce que, de toute façon, dans la partition, c'est marqué alto. Et mezzo, à l'époque de Bach, ça n'avait pas de sens non plus.
Donc voilà, je m'adapte. Au moins 3 identités à la fois. Quoi.
Quand on me demande, je dis mezzo à tendance alto. Quoi.
Et si je fais la fête, ça peut être contre alto, vraiment.
Exactement.
Bon, en tout cas, un très grand merci à vous, Lucile Richardot, d'être avec nous dans votre partie d'Enjouer. On va faire connaissance, bien sûr. Alors, on parlait de nudité avec Dalida. C'est un peu cette idée aussi qui rejoint ce qu'on va entendre tout de suite, les berceaux Yves Montand.
Le long du quai, les grands vaisseaux, que la houle incline en silence. Ne prenne pas garde aux berceaux que les mains des femmes balancent. Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui leur. Ce jour-là, les grands vaisseaux fuyant le port qui diminue sentent leur masse retenue par la des lointains berceaux. Par l'âme des lointains berceaux.
Les berceaux Yves Montand pour ouvrir votre partie d'Enjouer, Lucile Richardot. Alors, on parlait de nudité. On n'entend pas vraiment les petites gouttes de pluie parce qu'il y a plusieurs versions de ces berceaux. Et c'est vrai qu'à l'écoute de ça, on se disait orchestration complètement évanescente, très très originale, sorte de récitatif d'Ariuzo un peu accompagné. Alors, Yves Montand, pour vous, les berceaux, est-ce que ça a encore à voir, Lucile Richardot, avec cette idée de nudité de la voix?
Là, c'est vrai que c'est une version vraiment dépouillée. On n'a que quelques éclairages de l'harmonie écrite par Fauré et encore un petit peu travestie. Et on n'a vraiment que la voix toute nue quand on sait que Montand, au départ, c'était un danseur, c'était un acteur. Et finalement, là, il se montre vraiment dans toute sa simplicité avec une voix qui peut parfois être un peu crade et ça passe parfaitement. Quoi.
Et au départ, vous étiez quoi, vous, Lucile Richardot? D'où venez-vous?
Un peu crade. C'est sympa. Moi, d'où je viens? Je viens des Vosges, c'est ça la question. Je viens d'Épinal, je viens de tout à fait autre chose que le chant, quoi, tout simplement.
C'est-à-dire?
J'ai fait des études classiques, littéraires, à un certain niveau, mais on ne va pas s'attarder dessus. Et puis finalement, j'ai fait du journalisme, ce que je voulais faire depuis l'âge de 14 ans. Et j'en ai fait pendant 5 ans, et puis je tirais un peu la langue, et puis j'avais du temps libre parce que j'étais à la pige chez moi toute seule. Et du coup, j'avais du temps pour chanter parce que j'ai toujours aimé chanter depuis que je suis toute petite. Et finalement, vu que j'avais pas de sous, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire dans un conservatoire parce que ça me coûtera moins cher que des cours individuels. Donc je suis rentrée dans le conservatoire du 5e arrondissement de Paris, pour ne pas le nommer, à 25 ans seulement. Donc on peut dire que j'ai pris mon premier cours de chant à 25 ans. Et puis j'y suis restée 2 ans, ça me plaisait moyennement. Voilà. Puis j'ai vu une affiche de recrutement de la maîtrise de Notre-Dame. Et c'est ce qui m'a décidée à choisir du cap que je devais prendre parce que c'était très contraignant et je ne pouvais plus concilier les deux activités. Pour moi, j'aurais bien voulu être... Il y a beaucoup de gens, et je crois que d'ailleurs dans la maison de la radio, il y a des gens qui concilient les deux, qui sont et journalistes et chanteurs. Et j'aurais bien voulu pouvoir vraiment continuer dans le journalisme. Et puis bon, finalement, je ne faisais que des trucs alimentaires, ça ne me plaisait plus. Et voilà, et je me dis des fois, j'aurais peut-être dû sauter le pas avant parce que j'ai perdu énormément de temps et voilà quoi. C'est, je suis arrivée à 27 ans à Notre-Dame, j'en suis sortie à 30, ensuite j'ai embrayé sur le CNR de Paris en musique ancienne chez Howard Crook et puis je me suis lancée dans la carrière. Aujourd'hui j'en ai 35 et je suis vraiment encore au tout début quoi, je suis toute jeune.
Magnifique voix que celle de Tatiana Troyanos dans cette version mythique, s'il en est, 1977, de Didon aîné de Purcell, avec Raymond Lepard, l'English Chamber Orchestra, Tatiana Troyanos.
Ah, ça c'est mes premiers souvenirs de mezzo écouté au disque, enfin au CD, c'était les premiers CD de l'époque, dans les années 90, et j'ai écouté ça, j'avais, je sais pas, 12, 13, 14 ans maximum, et je m'étais enregistrée sur une pauvre cassette à côté, en faisant du playback là-dessus, et donc j'ai encore ces souvenirs d'essayer de faire mon son à moi, avec la voix un peu empoulée, mais du coup c'était un peu trafiqué, mais c'est là que j'ai commencé à me dire, oh là là, quel pied quand même, hein, c'est pouvoir chanter comme ça. Mais pour moi, c'était inaccessible.
Mais alors, où se situe la jubilation de la voix de mezzo, Lucille Ricciardo? J'ai ma petite idée, bien sûr, mais je vous dis ça surtout en ayant à l'esprit cette idée un petit peu partagée quand même, que le poitrinage, c'est sale. Que quand une mezzo poitrine à mort, c'est-à-dire dans ses notes de voix de poitrine, a du volume, de la noirceur, de la projection, ça peut, pour pas mal de chanteuses notamment, des sopranes, paraître un petit peu vulgaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, c'est toujours un problème aussi de volume qu'il faut qu'on adapte par rapport à une salle ou par rapport à un orchestre qui serait derrière, ou un piano tout simplement. Et c'est vrai que même moi, ça m'arrive de poitriner vraiment de façon dégueulasse. si j'ose dire, dégueulasse, entre guillemets.
Mais donc,
quand on arrive d'un aigu ou, et qu'il faut d'un coup cracher la sauce dans le grave, forcément, ça fait un gros décrochage et ça fait comme ça d'un coup. Donc forcément, mais c'est vrai que ce sera plutôt une soprane qui va poitriner vraiment systématiquement à partir du mi ou du ré, parce que là, elle est tout de suite dans les notes basses en volume de sa tessiture. Et pour moi, c'est vrai que j'essaye de pas trop poitriner plus qu'il n'en faut, parce que sinon après je pète la voix de ténor et c'est tout écrasé, et voilà, c'est vrai que...
Ouais, parce qu'on se dit que finalement toute la technique lyrique occidentale cherche à uniformiser tous les registres.
Ah oui, oui, à pas faire de
et
pas
que
faire
le décrochage, le décrochage est quelque chose qui est perçu comme une sortie de route esthétique, un petit
peu.
Ah
oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça peut avoir aussi un sens d'expressivité aussi. Hein. Ça peut être complètement voulu et après, ça peut être plus mal maîtrisé. Oui, c'est comme les vibratos. Hein,
alors, on va parler de vous, Lucie Richardot, aussi, de votre parcours. Mais alors, c'est vrai que vu que nous sommes sur la question de la voix et du modèle vocal, il y a une chanteuse en particulier, Sarah Mingardo, qui vous parle beaucoup pour sa profonde simplicité ou sa profondeur. De la simplicité, ouais. Ou de la simplicité de la profondeur, quoi. C'est un peu dans tous les sens.
Exactement. Bon, déjà, pour sa voix, je trouve que c'est une voix exceptionnelle qui me touche beaucoup. Pour moi, c'est un modèle. Je ne la connais pas, je l'ai déjà entendue sur scène, mais que ce soit au disque ou en direct, c'est vraiment toujours une sensation incroyable, enfin, une voix venue de nulle part. Et pour moi, ce serait vraiment un modèle de... Ben, comme vous dites, d'émissions simples de la voix sans se poser de questions, ça a l'air tellement facile pour elle, je suis sûre que ça ne l'est pas. Ça paraît très facile et très naturel sans se poser de questions et en plus sans se prendre pour la diva du siècle. Enfin, encore une fois, je ne la connais pas. Ça se trouve, elle est imbuvable. Je n'en sais rien.
En tout cas,
j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui.
Dans La Resurrezione, piangete si, piangete de Handel.
Piangete si, piangete.
Eh bien, grand bravo à Sarah Mingardo dans cet air Piangetesi, Piangete de la Resurrezione de Georg Friedrich Händel avec le concert d'Astrée Emmanuel Haïm et avec vous, surtout, Lucile Richardot dans le Parti d'en jouer. Et c'est vrai que ça me fait penser, évidemment, au poème de Théophile Gautier, Contralto. « Pour faire sa beauté maudite, chaque sexe apporte son don. Tout homme dit, c'est Aphrodite. Toute femme dit, c'est Cupidon. » etc. Cette réflexion sur le fait que la voix de Contralto est à la fois les deux, Roméo et Juliette, pour reprendre les thèmes de Théophile Gautier, chantant avec un seul gosier le pigeon rauque et la fauvette perchés sur le même rosier. Un peu kitschouille, en fait.
C'est très floral. Ouais, c'est le printemps.
C'est voilà. Les petits bergers de l'Arcadie. Mais alors, cette question d'ambiguïté, quand même, bon, c'est un petit peu un lieu commun quand même de la voix d'alto, parce qu'on peut l'entendre d'une toute autre manière. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui fait partie de votre ressenti ou pas?
Ben, au départ, non, mais en fait, c'est les chefs ou les compositeurs qui m'amènent à me pencher dessus, parce qu'en fait, comme vous dites, ça semble un lieu commun, mais tout le monde s'engouffre dans ce lieu commun. Moi, toutes les créations contemporaines que j'ai faites, enfin, toutes, j'en ai pas fait un nombre incalculable.
Oui, mais à chaque fois, c'est des rôles en pantalon.
Mais à chaque fois, on pense à m'appeler parce que, oui, alors ça va être une créature qui va passer tantôt du côté féminin, tantôt du côté masculin. Bon, ça, c'était un truc de quelqu'un de la maison, Benjamin Hertz. Lovebox avec 2E2M il y a 2 ans. Et donc, voilà, on avait pensé à moi parce que, voilà, c'était une créature un peu androgyne, un peu malfaisante. Donc, et puis là, je vais faire quelque chose l'an prochain où c'est encore un individu transgenre qui passe du sexe féminin au sexe masculin. Et j'ai l'impression que, ouais, voilà, on se dit toujours, moi, ce serait bien, on te verrait bien là-dedans. Ouais, sympa.
Mais du coup, flatteur. Votre regard de journaliste ou d'ex-journaliste ou de toujours journaliste par rapport à ça, c'est de dire, bon, est-ce que c'est fatigant ou est-ce que on pourrait dépasser un petit peu cette idée que la mezzo est systématiquement associée à des rôles en pantalon.
Ou alors des rôles de vieille veuve ou de belle-mère, ou c'est toujours des
voilà,
rôles de vieille ou des rôles
de
travestie. Oui, oui, oui. Bon, en même temps, c'est vrai que les sopranes, elles auront toujours à matière à se plaindre aussi, parce que ça va être toujours soit la jeune première, soit l'ancienne gloire. Le ténor, ça va être toujours le vieux beau et tout ça. Il y a quand même une grande codification des voix. De toute façon, ça, on peut pas évacuer ce principe. Et de toute façon, c'est bien aussi, parce que ça veut dire que c'est ce qui fait aussi la rareté d'une voix, la rareté d'un timbre. Du coup, qu'on puisse le passer autant dans un registre féminin que sur un registre masculin, c'est aussi une force. Et donc, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais c'est vrai que bon, j'aime bien aussi que ce soit très tranché, que ce soit très masculin ou très féminin, mais qu'à chaque fois, ce soit « bon, on va jouer sur l'ambiguïté sexuelle grâce à toi ». Moi, je ne me sens pas du tout ambiguë, personnellement. Donc, c'est pour ça que, du coup, vous me posiez tout à l'heure la question de la mise à nu, c'est vrai que, bon, bah, ok, je vais endosser un costume, quoi, plutôt que de révéler le fond de mon âme ou le fond de mon essence par ma voix. Ça va être tout le temps du travestissement, de toute façon.
Alors, à 11 ans, vous intégrez un chœur d'enfant, les petits chanteurs à la Croix-de-Lorraine à Épinal.
Oui.
Grosse transition.
Ouais, voilà.
En me disant, voilà, il y a une petite diaspora italienne aussi à Épinal.
À Épinal.
Pourquoi d'ailleurs?
Je sais pas. Non, on avait une grande famille italienne qui était au Petit Chanteur. Donc à l'époque, c'était dirigé par Alain Béra quand je suis rentrée. Et ça a été repris l'année d'après par Geoffroy Jourdain, qui est bien connu de nos jours, qui dirige entre autres les Cris de Paris. Et il a fait ses débuts là-bas. On est tous les deux originaires d'Épinal. Et puis avec plein d'autres chanteurs maintenant qui ont creusé leur sillon aussi, qui sont restés pros. Et on était... Geoffroy était très proche d'une famille italienne où c'était une famille assez nombreuse. Ils étaient 4 enfants, je crois, ou 5, je ne sais plus. Pardon à eux. Et du coup, en fait, ça faisait quand même beaucoup de chanteurs. C'était une famille assez pilier parce que le père devait être ingénieur à la papeterie, la grande papeterie du coin, parce que Épinal, Vosges, attention, c'est le bois, c'est le papier. En plus du textile, enfin le textile est un peu vécu là-bas maintenant, ça fait déjà un certain temps. Et donc du coup, il y avait des accointances avec les Italiens. Et Geoffroy a pu faire quelques séjours et nous organiser quelques séjours très très sympas à Venise et en Italie du Nord en général, par le biais de cette famille. Donc du coup, il nous a rapporté plein de superbes partitions. On a créé des choses de Lotti qui étaient seulement sorties de leur fond perdu de bibliothèque au fin fond de Venise, voilà, à l'époque. Et donc c'était sacrées découvertes et de sacrées aventures humaines. C'est très formateur à l'époque. Enfin, c'est mieux que les scouts, je trouve. Voilà. Les chœurs d'enfants.
Quoi qu'on chante quand même dans les scouts, mais...
Voilà, pas le même genre de musique. On ne chante pas non plus Haïli Haïlo, mais voilà, ça peut être un peu plus connoté. Mais franchement, là, je recommande à tous les parents qui ne savent pas quoi faire de leur môme, envoyez-les dans un chœur d'enfants. C'est la plus belle école du monde.
C'est un disque que vous ne trouverez peut-être pas facilement dans le commerce. Les petits chanteurs à la Croix de Lorraine, dans La nuit froide et sombre de Roland de Lassus, avec vous, mais alors dans une partie de soprano, Lucille oui. Richardot, parce que c'est avant la mue, vous avez 13-14 ans.
Oui, ouais, voilà, je suis toute petite et je chantais en soprano là-dedans. J'avais même des petits solos de temps en temps, effectivement, j'avais une petite voix d'enfant.
Et vous me disiez, à 15-16 ans, une drôle d'expérience, parce que
voilà,
vous avez un rhume.
Oui, une mauvaise grippe qui a un peu traîné. Et puis, je pense qu'effectivement, les hormones faisaient à l'époque que les cordes vocales se sont épaissies. J'étais aphone par-dessus. Et voilà, où une semaine plus tard, j'avais complètement descendu. Et pour moi, c'était le monde qui s'écroulait. Quand Geoffroy m'a annoncé qu'il fallait qu'il me réauditionne et qu'il allait me passer en alto, pour moi, c'était une rétrogradation. C'était la mise au banc. Pour moi, l'alto, c'était « ah ». Mais finalement, je me rends compte que les gens qui ont chanté toute leur enfance en soprano, dans le pupitre de soprano, en chœur, ils n'ont pas la même oreille harmonique parce qu'ils ont toujours la voix de dessus, la mélodie finalement. Et quand on chante une voix intermédiaire, on a plus la sensation de l'harmonie, justement.
Alors, cette idée quand même du journalisme, est-ce qu'il y a une empreinte familiale ? Parce qu'on dit souvent, voilà, journaliste, fils de journaliste, pianiste, fils de pianiste, prof, fils de prof. Enfin, est-ce qu'il y a un déterminisme familial ?
Ah, je ne sais pas. Non, moi, justement, je suis fille de prof, les deux parents profs. Donc, voilà, moi, j'ai entendu toute mon enfance, mon père me faire... avec les fautes d'orthographe et la presse locale. Oh, franchement, c'est une bourrée de fautes, c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte qu'avec le temps, je deviens comme lui, c'est horrible. Je suis toujours en train de vilipender la presse écrite en me disant... Ah, puis surtout, la presse télé ou même les bandeaux en dessous, c'est toujours bourrée de fautes. Et donc, je suis devenue comme lui, c'est horrible. Voilà. Mais je lui rends hommage ce soir, car finalement, c'est une pas si mauvaise école. Et donc, du coup, j'étais sensibilisée à l'écriture et au bien écrire, au bien parler. Et moi, j'aimais beaucoup les lettres, j'aimais beaucoup l'actualité aussi. J'ai toujours écouté la radio toute la journée.
C'est toujours le cas, les journaux ?
Toujours, ouais. Et plutôt la presse parlée, finalement. La radio qui tourne en boucle, et j'ai toujours 36 000 trucs qui tournent en même temps et que j'écoute en même temps. Donc, j'ai une écoute dissociée assez implacable. Et voilà, et je ne me voyais pas être prof, mais je me suis dit comment vivre de sa plume éventuellement ou... Et je ne me voyais pas non plus être écrivain. Et vu que j'adorais les événements, la presse et tout ça, les médias, je me suis naturellement tournée vers ce créneau. Mais bon, voilà, je ne savais pas que ça allait être aussi galère.
Alors là, on fait un petit bond dans le temps parce que nous sommes à la fac. Je crois que c'est à Nancy que vous allez.
Ouais.
Et à la fac, dans le cadre de vos études, donc c'est DESS de journalisme, c'est ça ?
Oh là, DESS de journalisme, c'était bien plus tard, c'était quand je suis arrivée à Paris en 2000. Là, j'étais plutôt en prépa, donc au lycée Poincaré, Hippocagne, Yacagne, classique, très dur, latin, enfer. Mais en même temps, l'enfer cool, parce que j'y ai passé vraiment d'excellentes années. C'était pas Henri IV ou Louis le Grand non plus, donc il n'y avait pas franchement d'espoir d'intégrer l'école normale supérieure. Donc du coup, il y avait moins de pression. Puis moi, j'étais tout à fait zen vis-à-vis de ça. Je savais quelles étaient mes limites, donc je ne me suis jamais mis de pression. Mais quand même, il y avait une volonté de bien faire et de dépasser quand même ses limites à soi. Donc, c'était quand même une grosse pression. Et effectivement, je m'enfermais dans une bulle, dans ma petite chambre de l'internat, avec quelques disques choisis, de la musique un peu du monde et tout ça. Et effectivement, c'était un peu mon premier contact avec Charpentier.
Un extrait de l'oratorio de Noël de Marc-Antoine Charpentier, magnifique son quand même, on se dit 1983, des airs florissants. William Crécy, bon quand même, un respect.
Bon reste, hein, quand même.
Ouais, c'est quand même très très beau. Est-ce que cette musique-là, assez tôt, rentre en contact avec vous d'une manière assez privilégiée,
ouais,
émotionnellement?
Ouais. Ouais, moi j'ai jamais eu de doute sur... moi, si je devais faire de la musique un jour, je m'étais toujours dit que ce serait forcément de la musique baroque. Je sais pas pourquoi, c'était un grain, une esthétique qui me touchait particulièrement, mais vraiment aux entrailles, quoi. C'était... Pour moi, Verdi, Wagner, tout ça, c'était pas du tout mon langage, quoi. Et c'était beaucoup trop exacerbé et n'importe quoi. Et moi, franchement, là, j'ai toujours trouvé une intimité dans la musique baroque et aussi des côtés très ludiques, parce que quand ça fait la fête, ça le fait vraiment. Quand on écoute un tambourin de Rameau, parfaitement aussi. Mais là... Plus ça correspond à une époque où j'avais besoin d'ambiance nocturne. En plus, ça tombait très bien. C'était l'intermède de la nuit dans le In Nativitatem Dominum Canticum. Et c'est vraiment très propice pour s'aider à travailler, pour se concentrer. Et puis pour déprimer aussi, hein, parce qu'on aime bien un peu. On dit, oh, je suis merde et tout ça, rien ne va. Alors en plus, si on s'assomme avec une musique triste et planante comme ça, ah, c'est le panard absolu.
Bon, on va parler de votre collaboration avec les correspondances de Sébastien Dossé, bien sûr, parce qu'il y a évidemment un lien très fort et on vous entendra dans un magnifique air tout à l'heure. Mais avant cela, c'est vrai qu'il y a, pour revenir un peu à ce parcours parallèle du journalisme et du chant, après votre classe préparatoire, après votre DESS de journalisme à Assas, vous faites quoi ? À quel moment, enfin, comment vous vivez ce double cursus ?
Alors, je le vis plutôt bien, mais je me dis toujours que j'attends la gloire, comme tout le monde, hein, comme tous les jeunes de 20 ans qui font des stages sur des stages et des piges sur des piges. Et en l'occurrence, je suis arrivée dans un canard médical qui s'appelait le Journal du Sida à l'époque, par un biais totalement... totalement bizarre, c'est que dans le cadre d'un journal étudiant, j'avais été assister à une grillade de carcasses de bœuf dans le jardin de Luxembourg. C'était l'époque de la vache folle. Tout va bien. Et donc, j'avais rencontré mon futur patron de l'époque qui bossait pour infirmière, magazine, enfin, tous les trucs médicaux, paramédicaux possibles, imaginables. Donc, je n'ai jamais su quel était le rapport avec la vache folle, mais je crois que c'est parce qu'il connaissait des gens à la mairie de Paris. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais montrer ma trombine. Et voilà. Et donc, il avait chassé du jeune étudiant en journalisme pour faire des piges chez lui. Et donc, voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Je me suis retrouvée dans la presse médicale pendant 2 ans. Et puis après, suite à un changement d'équipe, ben, je suis restée quand même un peu associée à cette rédaction, mais en externe. Et puis, j'ai fait d'autres piges ailleurs pendant 3 ans. Alors, du journal municipal à Villeneuve-la-Garenne, je les salue. C'était très, très, très sympa et ça m'a bien fait vivre. Et puis, des piges pour un guide critique de maison de retraite, pour des guides de ci, de ça, pour des journaux professionnels techniques sur la radio, justement. Et puis, un peu de bénévolat en radio associative, Radio Anguin, si tu nous écoutes. Enfin bref, que des moments de joie et de diversité. C'était fabuleux, mais c'était quand même assez bouché comme horizon, malheureusement. Et donc voilà, et je continuais à chanter de toute façon dans mon cœur étudiant de l'époque, l'Académie des grandes écoles et universités. Dirigé par Jean-Philippe Sercos, et voilà, c'était très formateur aussi. On a fait plein d'œuvres que je ne referai plus jamais, genre des grands chœurs de Saint-Saëns, des grands chœurs d'opéra, et puis aussi plein de chouettes musiques de Handel, de Vivaldi. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers solos aussi, et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais au fait, c'est là qu'on a commencé à me dire, mais tu ne voudrais pas venir chanter pour un mariage, là, c'est payé tant, on peut être payé pour ça ? Oh oui, non, mais c'est pas pour moi. Ça va me gâcher le plaisir. Je vais être obligée de choisir. Après, ça va être horrible. Ça va devenir comme le journalisme. Ça va être alimentaire. Ça va être horrible. Et puis finalement, ça m'a plu. Et puis, c'était tellement plus simple. J'avais plus à ramer pour proposer mon travail aux gens. Et les gens sont venus me chercher petit à petit après.
Alors, on va parler de cette drôle de période aussi. Vous nous en parliez en tout début de partie d'en jouer, hein, vers 27 ans, où vous êtes aussi, vous rédigez un livre. Voilà. Et puis, vous intégrez la maîtrise de Notre-Dame de Paris.
Bye.
Magnifique musique de Trouvert Gauthier de Coincy. Entendez-tu ensemble la maîtrise de Notre-Dame de Paris avec vous, Lucile Richardot au chant, très très belle musique, très beau chant, et puis Bérangère Sardin à la harpe, Sylvain Dieudonné qui dirige la maîtrise à la vielle, et puis Raphaël Masse aux percussions. Alors c'est vrai que c'est une drôle de période quand même de votre vie où on a l'impression que vous, Lucile Richardot, vous avez du mal à choisir. Que la notion de choix, c'est quelque chose qui... Vous êtes un petit peu comme... mais on rencontre très souvent ça, et je vous le dis parce que ça rentre aussi en résonance un petit peu avec moi, tout simplement. C'est-à-dire, on attend quand même que les choses se décantent d'elles-mêmes. Quoi. Mmh. Vous, à 27 ans, donc vous avez commencé à travailler comme journaliste. Vous essayez des postes de direction dans des magazines. Vous écrivez un livre sur un sujet...
Qui n'a rien à voir avec la choucroute.
Qui n'a rien à voir avec la... Voilà, sur la prostitution traditionnelle. Donc un livre qui s'appelle « Pute d'appellation contrôlée ».
Oh, merci les dossiers.
Mais qui fait vraiment partie de vous. Je veux dire, bon, c'est
oui,
vrai,
c'est,
du coup...
c'est,
et
c'est
puis
mon
vous intégrez
aussi.
La maîtrise de Notre-Dame de Paris qui vous demande une présence de 5 jours par semaine.
Voilà. Et juste après, j'avais passé un entretien pour un magazine échangiste en même temps que je passais les auditions d'entrée à Notre-Dame. Enfin, vraiment, le grand écart absolu. Donc, effectivement, c'est un peu Notre-Dame qui m'a décidé à choisir, parce que si je m'étais encore traînée pendant des années dans un conservatoire, j'aurais jamais choisi. J'aurais fait toujours les deux, mais de façon médiocre ou à moitié, quoi. Donc là, du coup, Notre-Dame m'a aidée à choisir, parce que déjà, et d'une part, il ne faut pas se voiler la face, il y avait une bourse. Il y a toujours une bourse, d'ailleurs, qui permet de vivre quand on n'est pas fils à papa ou qu'on n'a pas de mécène. Et voilà, c'était un rythme du mercredi au dimanche absolument incompatible avec des sorties en reportage ou même des interviews par téléphone. C'était et puis le temps d'écrire aussi, tout simplement. Je me suis gardé encore l'espace de faire 2-3 ans les relations presse d'un festival de création radiophonique qui s'appelle Les Radiophoniques, qui existe toujours d'ailleurs. Et je faisais ça sur le lundi-mardi, mais c'était l'enfer, quoi. J'avais plus de jours de repos. Moi qui avais connu les années de galère où je me levais le matin en me disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et je traînais ma longueur toute la journée en me disant « Bon, il va falloir encore que j'envoie des lettres de motivation à droite à gauche. » Là, je me retrouvais soudain submergée par trop de choses à faire. Je ne savais pas par quoi commencer. La vie est faite de coups de bourre comme ça et de coups de mou où on se dit « Mais où je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, allez, je ne me lève plus parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien. De toute façon, on ne me répond jamais à mes lettres de motivation. » Et tout le monde doit manger son pain noir à un moment. Et voilà, moi, j'espère que j'ai mangé le plus gros de mon pain noir entre 20 et 27 ans, quoi. Voilà. Parce que là, maintenant, c'est que du bonus.
À la virgule.
Alors, on n'a pas trouvé le Salve Regina dans Le Gendarme et les Extraterrestres, hein, musique
mais
de Raymond Lefebvre.
On se console sur un autre extrait des Extraterrestres.
Louis de Funès, alors c'est un grand plaisir de vous recevoir, Lucile Richardot. Pour celles et ceux qui nous rejoignent dans le Parti d'en jouer, vous êtes chanteuse, on dit de vous que vous êtes mezzo.
Ça me va.
Vous avez 35 ans et c'est vrai que ça, c'est une petite private joke que vous partagez aussi avec Sébastien Dossé qui est venu dans ce Parti d'en jouer l'année dernière, l'ensemble Correspondance, magnifique ensemble dans lequel vous chantez. Pourquoi c'est une joke entre vous, ça ?
Oh, je ne sais pas, parce qu'au départ, on avait commencé à enregistrer sur un disque précédent, l'Archange et le Lys, le Gloria Sanctus des Tontons Flingueurs. On n'a rien à voir. Enfin, c'est dans la scène finale des Tontons Flingueurs pendant le mariage.
Oui, c'est dans l'église de Ménilmontant.
La cantatrice qui est Gloria Sanctus. Moi, je m'éloigne du micro parce que les pauvres auditeurs.
Ça veut dire que vous avez fait de la radio.
Oui.
C'est un stigmate d'une expérience passée, ça.
Voilà, je pense à ces pauvres auditeurs à qui on casse les oreilles toute la journée. Mais non, ça va, je sais être brève dans le n'importe quoi. Et donc, du coup, les tontons flingueurs. Et puis ensuite, moi, je cherchais des Salve Regina pour je ne sais plus quel programme. Et puis, un coup, je lui ai transmis ce magnifique extrait sur YouTube, le Salve Regina du gendarme et des extraterrestres de Louis de Funès. Avec Louis de Funès, pardon. Et franchement, on est toujours en train de délirer sur des musiques de films pas possibles et sur la musique de Joe aussi qui est super. La soupe aux choux, la grande vadrouille, enfin bref, toi. Les grands airs du répertoire.
Hein. Eh ben oui. Qu'il faut préserver et conserver.
Exactement.
Alors ben, ça doit bien vous aller quand même, le répertoire de correspondance avec Sébastien Dossé.
Ah oui, 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 ça c'est ma partie sage, ma facette sage, parce que correspondance c'est très recueilli, c'est très planant et parfois très très exalté et très marrant aussi. Mais bon, ça c'est pour l'envers du décor. On se marre extrêmement bien en dehors des concerts, mais quand on est en concert, c'est... Attention, grand moment de recueillement et grand moment de plaisir. Alors, du coup, on fait les choses très sérieusement, mais tout en sachant rigoler. Mais bon, c'est le cas de beaucoup d'ensemble aussi, de toute façon.
Alors, ce qu'on va écouter, c'est justement un concert auquel j'étais. C'était au Festival d'Ambronay l'année dernière, en 2013, en septembre. Avec ce magnifique programme qui était assez osé au départ, sur le ballet de la nuit. Une thématique nocturne, on va dire, mais pas qu'avec des pièces françaises, des pièces italiennes aussi. Mm-hmm. Et je me rappelle, ce qu'on va entendre, c'est au tout début, et c'est vous, hein, Lucine Richardot.
C'est l'ouverture du concert.
Je crois que c'est au bout de 5 minutes. Vous arrivez, personne s'y attend. Et là, franchement, je me rappelle, moi, avoir pris une énorme claque. Parce que déjà, chanter cet air-là au début, c'est pas comme le chanter au bout de 45 minutes.
Mm-hmm. On n'a pas encore été abreuvé de musique et on se prend ce mur dans la tronche.
Et je me rappelle aussi les gens qui étaient autour de moi en liquéfaction totale.
Thank you.
magnifique musique que celle que vous chantiez en septembre 2013, Lucile Richardot, avec l'ensemble Correspondance de Sébastien Doucet. C'est le tout début de ce concert.
Ouais, je tiens à saluer son travail parce qu'en fait, quand on regarde la partition, il ne reste plus que la ligne de chant et une basse complètement indigente où il n'y a pas de chiffrage, rien du tout, il n'y a pas d'accord. Et il a écrit toutes les parties intermédiaires, il a tout reconstitué. Quoi. C'est un boulot gigantesque. Voilà.
Ouais, Ballet de la nuit, Jean de Campbefort, et c'est l'air qui ouvre ce ballet avec des reconstitutions, et c'est vrai, vraiment une très très belle musique, magnifique interprétation. Et cette formule du début, quand même languissante clarté, j'ai l'impression que ça pourrait bien vous définir, Lucile Richardot.
Je suis parfois une languissante clarté.
Est-ce que vous êtes très claire mentalement, j'ai l'impression? Est-ce que c'est le journalisme, l'éducation?
Je pense que c'est une façon de se protéger aussi, de ne pas rêver à n'importe quoi et toujours se dire que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, qu'on aura pris le meilleur qu'il y avait à prendre jusqu'alors. Moi, j'ai tout à fait conscience de tous les accidents qui peuvent arriver, mais dans n'importe quel métier, on peut se casser une jambe, on peut s'écraser le larynx, on peut mourir aussi tout simplement. Et donc ce sera pas grave parce que là j'aurais déjà fait énormément de belles choses et de grandes choses aussi. Je pense que je peux encore en faire pendant 40 ou 50 ans. Il n'y a pas de problème. Mais si là, je suis au maximum de ma carrière, ce sera pas grave parce que je serai toujours contente de chanter en ensemble vocal ou de chanter sous la douche, pourquoi pas. Mais voilà, je me dis, chaque jour apporte son bonus et puis tant pis si c'est le dernier, quoi.
Mais dans ce, le fait de mettre un petit peu à distance la notion de choix, aujourd'hui, si vous deviez en faire un de choix... Ou vous êtes toujours dans cette languissante clarté qui vous permet d'éviter d'en faire des choix ou...
Oh si, j'en fais quand même pas mal. Je fais déjà des choix de planning. Et puis je fais des choix aussi, travailler avec certaines personnes que j'apprécie plus que d'autres, ou faire plus de baroque que de contemporain. J'essaye de pas trop choisir en fonction du cachet parce que sinon je me dis ça y est c'est la fin. Il faut choisir plus en fonction de ses goûts qu'en fonction de du montant de la rémunération. Mais c'est vrai qu'après si je voulais vraiment choisir, eh ben je me pousserais peut-être plus au derrière pour faire plus d'auditions, pour faire plus de scènes. Parce que je manque beaucoup de scènes et je fais peut-être une production scénique par an, deux grand maximum. Et c'est vrai que ça me manque énormément de ne pas jouer plus.
Rintan
Serge Goubiou avec le poème harmonique dans la Fela di Farfa de Domenico Mazzocchi.
J'aime bien les voix un peu atypiques.
Bah oui, on peut chanter sans chanter lyrique et toucher. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu ça l'idée de la fin avec vous, Lucie Léo Richardo. C'est apprendre à être soi-même, c'est aussi chanter comme on est et comme on a envie d'être.
Complètement.
En dehors de... Mais c'est une forme de résistance aussi, quoi.
Oui, oui, oui. C'est pas forcer sa nature, son caractère à faire du journalisme alors qu'on n'est pas fait pour ça. Pas forcer sa nature vocale à faire trop de vibrato et trop de lyrique si on n'est pas fait pour ça. Enfin, bref, chanter normal, quoi, avec son cœur.
Est-ce que le chant vous aide à savoir où vous positionnez, où être dans la vie ?
Non, pas forcément. Les amis aussi aident à se positionner, mais le chant, c'est un art de vivre aussi. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas un métier comme un autre, c'est sûr.
Un grand merci à vous, Lucie Richardo, et on se quitte avec une déclaration. Non, c'est pas la déclaration, c'est plutôt la chanson des Chouans.
Voilà, un grand monument pour moi. J'aimerais remonter ça un jour, parce que ça a été créé en 73. Et j'aimerais bien faire ça pour mes 40 ans, si je devais faire un gros projet réunissant plein d'amis musiciens pour faire un chouette projet pour un anniversaire original. J'aimerais bien faire ça.
Mais vous êtes royaliste ou pas ?
Même pas. C'est juste que je trouve.
C'est justement.
Même pas. Ou alors je ne le sais pas.
C'est ça, c'est donc la Révolution française de Claude-Michel Schoenberg avec Alain Boublil en 1973, hein, musique et texte, opéra rock, absolument
voilà.
Génial.
On connaît plus Les Misérables, mais ça, je trouve que c'est carrément plus riche. Ça fait intervenir un chœur d'enfant, un chœur symphonique, orchestre symphonique, les Charlots, les Martin Circus, un bagade aussi pour ce qu'on va entendre justement de musique bretonne.
Avis aux producteurs qui nous écoutent. Merci Lucile Richardo.
Merci de m'avoir reçu.
Et à très bientôt.
Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du nord au midi qui n'en veulent pas, leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça.
Chouan, en avant, pas Saint-Denis.
Chouan en avant de la Révolution française de Claude-Michel Schoenberg, Alain Boublil, 1973, pour refermer ce parti d'en jouer avec vous, Lucile Richardo. Réalisé cette émission par Éric Lancien, préparé avec l'aide de Jean-René Bonissant, aujourd'hui à la prise de son et au mixage, Philippe Palares. Passez un très bon dimanche soir que vous poursuivez sur France Musique à 22h avec Jérémy Rousseau, comme si vous y étiez. Bonsoir Jérémy.